Bienvenue à Florence, l'une des villes les plus belles et culturellement significatives au monde. Merci d'avoir choisi de partir en voyage avec nous, IU Tour, à travers le cœur de la Piazza del Duomo, où vous découvrirez les joyaux architecturaux et artistiques qui définissent cette ville dynamique. Florence est largement considérée comme le berceau de la Renaissance, une période qui a révolutionné l'art, la science et la pensée, posant les bases du monde moderne. En vous promenant dans la ville, vous ressentirez les échos de cette transformation incroyable dans les bâtiments, sculptures et peintures qui vous entourent. La Piazza del Duomo est le centre de l'histoire riche de Florence. Cette magnifique place abrite certains des monuments les plus emblématiques de la ville, la cathédrale de Florence, Santa Maria del Fiore, le clocher de Giotto, Campanile, et le baptistère de San Giovanni. Ces monuments, qui forment ensemble l'un des complexes architecturaux les plus extraordinaires du monde, symbolisent le pouvoir, la richesse et la dévotion de Florence envers la beauté. Ils racontent aussi l'histoire de l'évolution de la ville, d'un centre commercial médiéval à un berceau d'innovation de la Renaissance. Au centre de ce complexe se dresse la cathédrale de Santa Maria del Fiore, connue pour son impressionnante coupole conçue par Filippo Brunelleschi, un chef-d'œuvre de l'ingénierie de la Renaissance. La façade éblouissante de la cathédrale, ornée de marbres colorés et de sculptures complexes, attire des visiteurs du monde entier. À côté, le clocher de Giotto s'élance haut dans le ciel, une réalisation remarquable de l'architecture gothique, décorée de panneaux élaborés et de statues qui racontent des histoires bibliques et humaines. Le baptistère de San Giovanni, avec sa forme octogonale et ses magnifiques portes en bronze créées par Lorenzo Ghiberti, est l'une des plus anciennes structures de la place, un symbole des racines religieuses profondes et du patrimoine artistique de Florence. En explorant ces monuments, nous allons plonger dans leurs histoires fascinantes, leurs réalisations artistiques et architecturales, et le rôle qu'ils ont joué dans la définition de l'identité de Florence. Tout au long de ce guide, nous nous concentrerons sur le clocher de Giotto et la cathédrale, car ces deux éléments sont au cœur de la grandeur de Florence et offrent certains des plus beaux panoramas de la ville. De l'ascension remarquable du clocher aux fresques et chefs-d'œuvre à l'intérieur de la cathédrale, ces monuments offrent une expérience inoubliable qui fait revivre l'héritage artistique de Florence. Prenez donc un moment pour respirer la beauté de la Piazza del Duomo autour de vous et préparez-vous à explorer ces sites extraordinaires en profondeur. Que vous soyez amateur d'art, d'histoire ou d'architecture, le voyage que vous allez entreprendre vous plongera au cœur de l'héritage de la Renaissance florentine. Le clocher de Giotto, ou Campanile di Giotto, est l'une des structures les plus emblématiques de Florence, se dressant fièrement à côté de la cathédrale. Il n'est pas seulement une belle pièce d'architecture, il représente l'histoire riche de Florence, sa fierté civique et ses réalisations artistiques. L'histoire du clocher est aussi fascinante que son design, et il est un symbole de l'influence croissante de Florence durant la période médiévale tardive et la Renaissance. La construction du campanile débuta en 1334, sous la commande de Giotto di Bondone, l'un des artistes les plus renommés de son époque. Giotto était déjà une figure célébrée à Florence pour son travail en tant que peintre, et ses talents en tant qu'architecte commençaient tout juste à se révéler. Il fut choisi pour concevoir le campanile dans le cadre de l'expansion de la cathédrale de Santa Maria del Fiore, un projet qui allait remodeler le visage de Florence et devenir un symbole central de la ville. Giotto imagina une tour haute et élégante qui mettrait en valeur la beauté de la cathédrale et serait un témoignage de la richesse croissante de Florence et de son importance. Cependant, Giotto ne vécut pas pour voir l'achèvement de la tour. Il mourut en 1337, seulement 3 ans après le début de la construction, laissant un héritage architectural qui serait poursuivi par 2 autres architectes talentueux. Andrea Pisano, qui avait travaillé avec Giotto sur d'autres projets, pris en charge la tâche de compléter les niveaux inférieurs du clocher. Pisano était un sculpteur et architecte talentueux, et il fut responsable de la réalisation des premiers étages de la tour. Tragiquement, Pisano mourut en 1348, et la responsabilité de terminer la tour fut confiée à Francesco Talenti, qui termina la structure en 1359. Bien que le design original de Giotto ait été légèrement modifié par ses successeurs, la tour resta fidèle à sa vision. Avec ses 82 mètres, 271 pieds, le campanile est un chef-d'œuvre vertical, illustrant le style architectural gothique qui était prédominant au XIVe siècle. La hauteur de la tour en faisait une caractéristique dominante du ciel de Florence, et sa position à côté de la cathédrale symbolisait la force de la dévotion religieuse et du pouvoir politique de la ville. Le campanile n'était pas qu'une structure magnifique, il avait une fonction essentielle dans le système de cloches de la cathédrale. Les cloches logées dans la tour étaient utilisées pour appeler les gens à la messe, annoncer des événements civiques importants et marquer le passage du temps, intégrant encore plus la tour dans la vie quotidienne des habitants de Florence. Au Moyen Âge, Florence était une cité-état prospère, et la construction de bâtiments monumentaux comme le clocher de Giotto était un moyen pour la ville de démontrer sa richesse et sa fierté civique. C'était une époque de compétition intense entre les villes les plus puissantes d'Italie, et Florence cherchait à surpasser ses rivaux de toutes les manières possibles. Le campanile n'était pas seulement un symbole religieux, mais aussi politique. Il visait à montrer la domination croissante de Florence et à refléter les ambitions artistiques et architecturales de ses dirigeants. La République florentine était déterminée à faire une déclaration audacieuse à travers les œuvres publiques qu'elle sponsorisait, et le clocher faisait partie intégrante de cet effort. Plus qu'un simple symbole de richesse, le campanile devint un point focal de la vie sociale et religieuse de Florence. Les clochers en Italie médiévale étaient essentiels, non seulement comme des monuments de grandeur architecturale, mais aussi comme des points centraux pour les activités communautaires. Le son des cloches résonnait dans les rues, marquant le temps, appelant les gens à la prière et annonçant des événements civiques importants. Les cloches du clocher de Giotto ne faisaient pas exception. Ces cloches auraient été entendues partout à Florence, signalant tout, du début de la journée de travail au commencement des cérémonies religieuses. En fait, les cloches du campanile étaient cruciales pour le rythme quotidien de la vie de la ville. Les clochers en général étaient vitaux dans l'Italie médiévale. Dans les villes où l'église jouait un rôle central à la fois religieux et civique, les clochers étaient souvent les structures les plus hautes de la ville, marquant la domination et la dévotion religieuse de celle-ci. À Florence, le clocher de Giotto était particulièrement significatif, non seulement à cause de sa taille, mais aussi de sa localisation. Faisant partie du complexe de la cathédrale, le campanile était un symbole central de la richesse, du pouvoir et de la piété de Florence. La cathédrale de Florence et sa tour étaient conçues pour impressionner les visiteurs et signaler au reste de l'Italie que la ville était l'un des centres culturels, économiques et religieux les plus importants du pays. Le campanile servait également de sorte d'horloge civique. Les cloches à l'intérieur étaient utilisées pour marquer le temps tout au long de la journée. En l'absence d'horloge moderne, le campanile fournissait une structure commune pour garder l'heure. Le tintement des cloches dictait le rythme de la vie quotidienne, quand commencer à travailler, quand faire une pause, quand se rassembler pour la messe, et quand célébrer des événements civiques importants. Le campanile était, à bien des égards, le cœur battant de Florence. Les gens dépendaient de ces cloches pour plus que des raisons religieuses. Les cloches faisaient partie du rythme quotidien de la ville, rappelant aux gens les devoirs sacrés et civiques qui étaient liés à la vie dans la République. En plus de sa fonction de garde-temps, le clocher de Giotto jouait également un rôle dans la vie de la communauté lors des moments de célébration et de crise. Les cloches de la tour sonnaient pour signaler le début des festivals civiques, des événements politiques importants et même des urgences, comme les incendies ou les invasions. Les cloches reliaient les citoyens de Florence aux événements qui façonnaient leur vie, faisant du campanile une partie profondément intégrée de l'identité de la ville. Au-delà de son rôle dans la vie quotidienne, le clocher de Giotto était également une partie clé du paysage symbolique de Florence. En tant qu'un des plus hauts bâtiments de la ville à l'époque, il servait de représentation visible de la domination de Florence sur ses rivaux. La hauteur de la tour était une déclaration de pouvoir, et la beauté de son design reflétait la richesse de la ville et son engagement envers l'excellence artistique. À bien des égards, le clocher de Giotto incarne l'esprit de Florence à l'époque médiévale. Il était un monument à la fierté civique de la ville, un emblème de dévotion religieuse et un symbole de l'importance croissante de Florence en tant que centre culturel et politique. Le clocher, à travers sa construction et sa fonctionnalité, reliait les habitants de Florence à leur ville et les uns aux autres, en faisant plus qu'un exploit architectural, il est devenu une partie intégrante du tissu social et religieux de la ville. Alors que nous continuons d'explorer le campanile plus en détail, nous plongerons dans les caractéristiques architecturales et les détails artistiques qui font de cette tour un véritable chef-d'œuvre. Des panneaux de marbre vibrants aux statues et reliefs complexes, chaque élément de la tour reflète l'engagement profond de Florence envers la beauté, l'innovation et la fierté civique. Le clocher de Giotto, ou campanile, est un exemple saisissant de l'architecture gothique, un style qui a prospéré en Europe du XIIe au XVIe siècle. Son design est une combinaison frappante de verticalité, de détails complexes et d'élégance, et il occupe une place particulière dans l'histoire des réalisations architecturales de Florence. Se tenant à côté de la grande cathédrale de Santa Maria del Fiore, la tour forme une harmonie visuelle remarquable avec son environnement, et son design est soigneusement conçu pour compléter les caractéristiques de la cathédrale tout en apportant sa propre valeur artistique unique. L'une des caractéristiques les plus frappantes du clocher de Giotto est son utilisation de marbre polychrome, avec une belle combinaison de marbre blanc, vert et rouge. Le choix de ces couleurs est significatif, car elles créent non seulement une harmonie visuelle avec la cathédrale de Florence, mais elles servent aussi de symbole pour la ville elle-même. Le marbre vert provient des carrières de Prato, près de Florence, tandis que le marbre rouge vient de Sienne, une autre ville puissante d'Italie à l'époque. Le marbre blanc, couleur dominante, provient des collines autour de Carrare, célèbre pour son marbre de haute qualité. Ce marbre polychrome n'était pas simplement un élément décoratif, il représentait aussi une déclaration symbolique sur la richesse, le pouvoir de Florence et l'interconnexion de la ville avec d'autres centres importants de la Renaissance italienne. Les couleurs elles-mêmes ont une signification plus profonde dans la Florence médiévale. Le rouge représentait la passion, la terre et le sang divin, suggérant la nature sacrée de la tour. Le marbre blanc, quant à lui, symbolisait la pureté et la perfection céleste, s'accordant avec la vocation religieuse de la tour. Le vert était considéré comme la couleur de la vie et du renouveau, évoquant le monde naturel et le renouveau qu'apportait la foi. Ensemble, ces couleurs n'étaient pas seulement destinées à rendre la tour visuellement frappante, mais elles imprégnaient également la structure d'un sens spirituel et culturel plus profond. L'effet riche de la polychromie reflétait l'amour médiéval pour la couleur dans l'architecture, visible dans de nombreuses cathédrales et bâtiments publics de l'époque. À Florence, cette approche a contribué à l'identité visuelle de la ville, la distinguant des autres villes italiennes et renforçant son statut de centre d'innovation artistique et de dévotion religieuse. Le clocher de Giotto est orné de reliefs et de sculptures complexes qui sont non seulement visuellement captivants, mais également riches en symbolisme. Ces œuvres d'art ont été conçues pour transmettre de puissantes histoires bibliques, historiques et humaines. Les reliefs et sculptures de la tour ont été réalisés par plusieurs artistes renommés de l'époque et servent à la fois à des fins décoratives et didactiques, éduquant le public sur les récits religieux et les vertus. L'un des éléments les plus importants de l'extérieur de la tour est les panneaux hexagonaux qui couvrent une grande partie de la partie inférieure de la structure. Ces reliefs hexagonaux sont disposés en une série qui enveloppe la base de la tour, chaque panneau représentant un thème différent lié à la création du monde et de l'humanité, aux arts et aux sciences. Le choix de la forme hexagonale pour ces panneaux fait référence à la croyance médiévale en l'harmonie divine de l'univers. Cela suggère l'équilibre et l'ordre qui existent dans la nature et le cosmos, un thème profondément important pendant la Renaissance, lorsque les intellectuels et les artistes ont commencé à explorer la relation entre le monde naturel et la création divine. Parmi les reliefs les plus frappants, on trouve ceux qui représentent la création de l'homme, montrant l'acte divin de Dieu créant l'humanité à son image. Ces panneaux sont remplis de détails complexes, montrant non seulement l'acte de création mais aussi les vertus et les réalisations de l'humanité. Les panneaux illustrent également les arts et les sciences, mettant en valeur la vie intellectuelle florissante de l'époque et le rôle central de Florence dans le renouveau culturel de la Renaissance. Des figures représentant la philosophie, l'astronomie et la musique sont représentées, suggérant l'importance de la connaissance et de l'apprentissage pour les habitants de Florence. Ces reliefs ne sont pas seulement un élément décoratif, ils ont été conçus pour communiquer la compréhension médiévale du monde et enseigner aux croyants la relation entre l'homme, Dieu et l'univers. Lorsque les habitants de Florence levaient les yeux vers la tour, ils se rappelaient non seulement de leurs devoirs spirituels, mais aussi des grandes réalisations que l'humanité pouvait atteindre par la connaissance et la foi. Aux côtés des reliefs hexagonaux, plusieurs statues de prophètes et de rois ornent la tour. Ces statues ont été placées dans des niches le long de l'expansion verticale de la tour et représentent un mélange de figures bibliques et historiques. Les prophètes servent à rappeler aux habitants de Florence la sagesse divine transmise au fil des âges, tandis que les rois symbolisent le pouvoir terrestre et l'autorité que la ville avait pendant la période médiévale. Les statues ont également une fonction symbolique, représentant les vertus du leadership, de la foi et de la sagesse divine qui étaient au cœur de la vie civique et religieuse de Florence. Étant une république, Florence mettait en valeur les valeurs républicaines à travers ses statues de roi, soulignant la responsabilité civique et l'importance de dirigeants vertueux agissant dans l'intérêt du peuple. En même temps, les figures bibliques représentaient l'autorité spirituelle de l'Église et le rôle central de la religion dans la vie quotidienne. Le clocher de Giotto est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture gothique, et son design témoigne de l'évolution du style et de la technique architecturale tout au long de sa construction. De la base aux flèches, le design de la tour reflète les évolutions des approches de la forme et de la structure qui se produisaient à Florence à l'époque. À la base, la tour présente une empreinte carrée large avec des niches pour les statues et des reliefs complexes. Ces niveaux inférieurs de la tour sont plus lourds et solides, fournissant une base forte pour la structure qui s'élève au-dessus. À mesure que l'on monte dans la tour, les éléments architecturaux deviennent de plus en plus raffinés et délicats, un reflet du désir de créer une sensation de verticalité et de légèreté propre à l'architecture gothique. Les étages supérieurs du campanile sont de plus en plus ornés d'arches pointues, de fenêtres gothiques et de flèches gracieuses, donnant à la tour un sens de mouvement ascendant qui attire le regard vers le ciel. À mesure que vous montez dans la tour, les fenêtres deviennent de plus en plus complexes et étroites, avec des arcs pointus qui laissent filtrer la lumière, illuminant les espaces intérieurs de la tour. La flèche au sommet de la tour, ajoutée par Francesco Talenti, est l'élément visuel le plus frappant de l'ensemble de la structure. Elle s'élève au-dessus de la ville, symbolisant la connexion entre le ciel et la terre, et constitue une finition appropriée pour cette grande structure. L'évolution du design, du bas vers le sommet de la tour, reflète les techniques architecturales changeantes de l'époque. À l'époque de sa construction, l'architecture gothique était à son apogée en Europe, et la conception du clocher de Giotto incarne de nombreuses caractéristiques de ce style, verticalité, décoration ornementale et une sensation de légèreté qui contraste avec les bâtiments plus lourds et solides des périodes antérieures. Le raffinement progressif du design de la tour, de la base à la flèche, témoigne de la sophistication croissante des pratiques architecturales à Florence, et il sert de témoignage à l'habileté et à la vision des architectes impliqués. En conclusion, le clocher de Giotto n'est pas seulement un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, mais aussi un témoignage de la vision artistique des architectes et artisans qui l'ont réalisé. Du marbre polychrome qui harmonise avec la cathédrale aux reliefs et statues complexes qui racontent l'histoire de la création de l'homme et de ses réalisations, chaque aspect de la tour est imprégné de significations symboliques et d'une profonde connexion avec la vie civique et religieuse de Florence. L'évolution du design de la tour, de la base solide à la délicate flèche élancée, reflète la sophistication croissante des techniques architecturales et l'importance croissante de la ville en tant que centre d'art et de culture. Le clocher de Giotto est, sans aucun doute, l'une des structures les plus significatives et les plus belles de Florence, et il continue d'inspirer l'émerveillement et l'admiration pour sa brillance architecturale et artistique. L'expérience de monter le clocher de Giotto est à la fois physiquement exigeante et richement gratifiante. Lorsque vous commencez votre ascension, vous serez accueilli par un étroit escalier en colimaçon qui s'étend sur 414 marches, une montée ardue, mais qui vous rapproche d'une vue remarquable de Florence. Les marches sont étroites et les escaliers souvent exigus, offrant juste assez d'espace pour une seule personne à la fois. L'air devient frais à mesure que vous montez, mais l'excitation et l'anticipation grandissent à chaque pas, sachant qu'à chaque mouvement ascendant, la vue deviendra plus grandiose et plus époustouflante. En chemin, il y a des petites fenêtres et des ouvertures dans les murs en pierre. Celles-ci offrent de furtifs aperçus de la ville en dessous, une invitation à faire une pause et reprendre votre souffle tout en admirant les paysages. De ces petites ouvertures, vous pouvez voir les toits de Florence s'étendre, les motifs complexes de la Piazza del Duomo et la majestueuse coupole de la cathédrale. Ces moments brefs offrent un sentiment de connexion avec la vie vibrante de la ville et la hauteur imposante de la structure que vous gravissez. Lorsque vous atteignez le sommet, le sentiment d'accomplissement devient plus fort, et la vue s'ouvre entièrement devant vous. Debout au sommet, vous êtes traité à l'une des vues les plus panoramiques de Florence. À l'est, le fleuve Arno serpente à travers le cœur de la ville, ses eaux scintillantes réfléchissant la lumière du soleil. Le Ponte Vecchio, le pont médiéval emblématique de Florence, s'étend au-dessus du fleuve, bordé des boutiques et bijouteries qui sont devenues synonymes de l'héritage artistique et historique de la ville. Au-delà de la ville, les collines toscanes s'élèvent doucement, leurs contours doux et leur étendue verte s'étendant à perte de vue. Les collines ondulantes sont parsemées de villas et de vignobles, créant un contraste tranquille avec l'agitation de la ville en dessous. On peut presque imaginer la scène il y a des siècles, lorsque cette vue aurait été presque identique, la beauté intemporelle de Florence encadrée par la campagne environnante. Prenez un moment pour savourer la vue, profiter des environs et réfléchir à l'incroyable merveille technique qu'est le clocher. Pensez que cette structure, qui fait partie intégrante du paysage de Florence, a été achevée il y a des siècles et qu'elle reste aujourd'hui un témoignage de l'ingéniosité et de la vision artistique de ses créateurs. Le clocher de Giotto n'est pas seulement un symbole du passé de Florence, il fait partie intégrante de l'identité de la ville, offrant un aperçu des réalisations architecturales et culturelles qui ont façonné cet endroit remarquable au fil des siècles. La Santa Maria del Fior, ou la cathédrale de Florence, est un témoignage de l'incroyable héritage architectural et artistique de la ville. L'histoire de la construction de la cathédrale commence en 1296, lorsque l'architecte renommé Arnolfo di Cambio fut chargé de concevoir une nouvelle cathédrale pour la ville en pleine expansion. À cette époque, Florence était devenue un centre économique et culturel puissant, et l'église existante de San Lorenzo ne suffisait plus à accueillir la population croissante ni à refléter la prestige croissant de la ville. La cathédrale était censée surpasser toutes les autres, tant par sa taille que par sa grandeur, en montrant la puissance de Florence en tant que l'une des principales villes de la Renaissance. Les premiers plans envisageaient une immense structure gothique, avec une conception qui dépasserait toutes les églises d'Europe. La nef, avec son vaste espace, et les arches élevées étaient destinées à créer un sentiment de crainte, comme si les visiteurs levaient les yeux vers les voûtes imposantes et ressentaient la présence écrasante de Dieu. Mais même pendant que la fondation était posée, il était évident que la construction d'une telle structure monumentale ne serait pas une tâche facile. La taille et la hauteur de la cathédrale posaient des défis importants, notamment en termes de technique de construction et des matériaux nécessaires. La coupole, qui deviendrait la caractéristique définissant la cathédrale, s'est avérée être le plus grand défi. En fait, la construction de la cathédrale s'est étendue sur plus de 150 ans, impliquant plusieurs générations d'architectes et de constructeurs, chacun contribuant au projet de différentes manières. Parmi les figures notables de sa création figure Giotto di Bondone, qui fut nommé responsable du projet et conçut également le célèbre clocher de Giotto à côté de la cathédrale, et Francesco Talenti, qui prit le relais après la mort de Giotto. Cependant, c'est le brillant Filippo Brunelleschi qui allait finalement concevoir et construire la coupole qui rendit la cathédrale véritablement iconique. La coupole de Brunelleschi était révolutionnaire à tous points de vue. C'était la plus grande coupole en briques jamais construite, et elle devait être réalisée sans l'utilisation de supports en bois traditionnels, un exploit qui n'avait jamais été accompli auparavant. Le design à double coque et le motif en briques en chevron qu'il développa ne permirent pas seulement de construire la coupole sans échafaudage, mais créèrent également une caractéristique architecturale étonnante qui deviendrait l'une des coupoles les plus reconnaissables au monde. Cette prouesse technique fut si remarquable qu'elle révolutionna l'architecture et ouvrit la voie aux innovations de la Renaissance. La Santa Maria del Fior ne symbolisait pas seulement la prouesse architecturale et technique de Florence, elle était également un puissant symbole de l'importance économique et religieuse croissante de la ville pendant la Renaissance. Le grand design de l'église était le reflet de la richesse et de l'influence culturelle que Florence avait accumulée grâce au commerce, à la banque et au mécénat des arts. Sa flèche imposante et sa coupole monumentale semblaient atteindre les cieux, un signe extérieur de la dévotion de la ville à la fois envers Dieu et les réalisations humaines. De plus, la famille Médicis, qui était la plus puissante et influente des mécènes de Florence durant la Renaissance, joua un rôle déterminant dans la forme finale de la cathédrale. Sous leur direction et leur soutien financier, les Médicis non seulement financèrent la construction de la coupole, mais commandèrent également certaines des œuvres d'art et d'architecture les plus célèbres de l'église, y compris des fresques de Vasari et des sculptures de Donatello. La cathédrale, avec ses chefs-d'œuvre artistiques et sa conception avant-gardiste, devint un symbole du mécénat des Médicis, reliant le nom de la famille à l'ascension de la ville vers la prééminence culturelle. L'âge d'or de Florence, particulièrement pendant le règne des Médicis, a été défini par une fusion de l'art, de la politique et de la religion. La cathédrale est devenue un espace central où ces forces convergent. L'église n'était pas seulement un lieu de culte religieux, mais aussi un symbole politique qui mettait en valeur le statut de Florence en tant que république indépendante, riche, influente sur le plan culturel et intellectuel. C'était un lieu de fierté civique et un rappel de la capacité de Florence à attirer l'attention du monde entier. Ainsi, la Santa Maria del Fior demeure un monument durable à la dévotion religieuse, à la fierté civique et à l'éclat architectural de la ville. Sa construction, qui s'est étendue sur plus d'un siècle, reflète à la fois les avancées technologiques et artistiques de son époque, ainsi que les aspirations de la ville à se définir comme un centre de la culture de la Renaissance. La présence imposante de la cathédrale continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement, symbolisant l'ambition et l'esprit de Florence pendant la Renaissance et au-delà. La façade de la cathédrale de Florence est un affichage époustouflant de conceptions complexes, de symbolisme riche et de beauté artistique. Initialement planifiée pendant les premières étapes de la construction de la cathédrale, la façade elle-même ne fut achevée qu'au XIXe siècle. Le design que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une approche du style gothique revival qui fut ajoutée par l'architecte Emilio de Fabri entre 1871 et 1887, amenant l'extérieur en harmonie avec la grandeur de l'intérieur de la cathédrale et des structures environnantes. La caractéristique la plus frappante de la façade est le marbre polychrome, qui reflète les mêmes couleurs utilisées sur le clocher de Giotto, le blanc, le vert et le rouge. Cette combinaison de marbre n'ajoute pas seulement un contraste esthétique visuellement spectaculaire, mais porte également une signification symbolique profonde. Le marbre blanc représente la pureté et le divin, parfaitement adapté à une structure sacrée. Le marbre vert symbolise la vie et le renouveau, tandis que le marbre rouge représente la passion, la force et la terre. Ce schéma de couleurs vibrantes crée une sensation de radiance céleste, particulièrement lorsque la lumière du soleil frappe l'extérieur de la cathédrale, la faisant paraître comme si elle brillait. Les marbres sont agencés de manière à former des motifs complexes, créant un sens de l'équilibre et de l'harmonie, tout en célébrant la nature divine de l'église. Au sommet de la façade, vous remarquerez une grande rosace, un élément typique de l'architecture gothique. Cette fenêtre circulaire est composée de vitraux, dont le design élaboré évoque la beauté de la lumière divine filtrant à travers les cieux. Autour de la fenêtre se trouvent des niches abritant des statues de figures religieuses telles que le Christ, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Ces figures offrent une représentation visuelle des personnages clés de la théologie chrétienne, renforçant ainsi le rôle de l'Église en tant que sanctuaire spirituel. L'une des caractéristiques les plus notables de l'extérieur de la cathédrale de Florence est le jeu de portes en bronze à l'entrée. Ces portes, connues sous le nom de Portes du Paradis, ont été créées par l'artiste renommé Lorenzo Ghiberti. Commandées en 1425, ces portes sont en bronze doré et sont considérées comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art de la Renaissance. Les Portes du Paradis représentent des scènes bibliques, illustrant des moments clés de l'Ancien Testament. Chaque porte est composée de 10 panneaux, et chacun raconte une histoire des figures bibliques. Les reliefs sont finement détaillés et magnifiquement exécutés, démontrant l'habileté de Ghiberti à saisir la forme humaine et sa profonde compréhension de la perspective. Les scènes sont rendues avec un sens de la profondeur et du mouvement, mettant en valeur l'utilisation innovante de l'espace et la maîtrise de la perspective linéaire par Ghiberti, une technique qui allait influencer de nombreux artistes de la Renaissance. Parmi les scènes les plus significatives figurent celles représentant Adam et Ève, l'arche de Noé et le sacrifice d'Isaac. Chaque scène est non seulement un récit religieux, mais aussi un chef-d'œuvre visuel, combinant enseignements théologiques et innovations artistiques. Le travail de Ghiberti est souvent salué pour son incroyable détail, et les reliefs parviennent à saisir à la fois la physicalité et la profondeur émotionnelle de chaque événement biblique. Les figures dans les scènes ne sont pas statiques, elles semblent prendre vie, ajoutant une intensité dramatique aux récits théologiques qui sont racontés. Les portes du paradis ont été initialement placées sur le baptistère de San Giovanni avant d'être déplacées à la cathédrale, où elles servent désormais de point focal majeur de la Piazza del Duomo. Leur beauté, leur artisanat et leur signification théologique en font l'une des œuvres les plus admirées de l'art de la Renaissance. Non seulement elles offrent un aperçu de l'histoire religieuse, mais elles marquent également un tournant dans le développement des techniques artistiques de la Renaissance. L'aptitude de Ghiberti à travailler en relief tridimensionnel a été révolutionnaire, posant les bases des développements futurs de la sculpture. Ces portes ne sont pas seulement une représentation de l'histoire biblique, mais aussi un symbole du florissant intellectuel et artistique de Florence. Le génie de Ghiberti a fait de ses portes un chef-d'œuvre qui inspirerait des générations d'artistes à venir. Le détail complexe et la profondeur émotionnelle de chaque scène reflètent les idéaux de l'humanisme de la Renaissance, mettant en valeur à la fois l'expérience divine et humaine dans l'œuvre d'art. En résumé, la façade de la cathédrale de Florence, avec son style gothique revival, son marbre polychrome et les portes du paradis de Ghiberti, est un exemple inégalé de la manière dont l'architecture, le symbolisme religieux et l'art se conjuguent pour créer un tout harmonieux. La cathédrale reste une représentation puissante du lien profond de Florence à la fois avec le divin et les réalisations artistiques de la Renaissance. La combinaison de beauté, d'innovation et de symbolisme dans ses caractéristiques fait de la cathédrale un élément vital du riche patrimoine culturel de Florence. Le dôme de la cathédrale de Florence, conçu par le brillant architecte Filippo Brunelleschi, est l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire de l'architecture. Ce n'est pas seulement une structure monumentale qui définit l'horizon de Florence, mais elle représente aussi un défi d'ingénierie incroyable qui a repoussé les limites de ce qui était possible à l'époque de la Renaissance. Construire un dôme d'une telle envergure représentait un défi considérable. Le dôme devait couvrir la vaste nef de la cathédrale, créant un espace ouvert et sans interruption en dessous. Cependant, la construction d'une structure aussi massive posait d'énormes difficultés d'ingénierie. La plupart des dômes construits avant l'époque de Brunelleschi utilisaient des échafaudages en bois et des supports pour maintenir la structure en place pendant sa construction. Cependant, le problème avec cette méthode était double. Premièrement, l'échelle du dôme de la cathédrale de Florence dépassait tout ce qui avait été tenté auparavant. Deuxièmement, l'utilisation d'échafaudages en bois à une telle échelle était risquée et peu pratique pour une structure aussi grande, en particulier en raison de la hauteur immense du dôme et de la nécessité d'empêcher la structure de s'effondrer sous son propre poids. Le génie de Brunelleschi résidait dans la résolution de ces problèmes grâce à l'innovation. Au lieu d'utiliser des supports en bois, il a conçu un ingénieux double coque. Cette conception présente une coque intérieure et une coque extérieure, qui travaillent ensemble pour soutenir la structure. La coque intérieure fournit la résistance et la stabilité nécessaires, tandis que la coque extérieure donne au dôme sa forme iconique et aide à répartir uniformément le poids du dôme. L'un des aspects les plus innovants de la conception de Brunelleschi était son utilisation de la maçonnerie en briques en chevron, un motif dans lequel les briques étaient posées à un angle pour créer une structure autoportante. Cette technique a permis la construction du dôme sans échafaudage et a été révolutionnaire en termes de techniques d'ingénierie utilisées à l'époque. Le motif en chevron a assuré que les briques s'emboîtent entre elles, créant une structure durable et stable capable de supporter le poids immense du dôme. En plus de ces exploits d'ingénierie remarquables, le dôme de Brunelleschi était également un triomphe esthétique. Sa forme et son design étaient un départ spectaculaire par rapport au dôme précédent, créant un équilibre harmonieux entre la fonction et la beauté. La forme octogonale du dôme, avec ses courbes élégantes et ses proportions frappantes, était parfaitement adaptée à l'architecture de la cathédrale et donnait à l'ensemble de la structure un sentiment de grandeur et d'élégance. L'utilisation de tuiles rouges sur la coque extérieure du dôme a encore renforcé son impact visuel, créant un contraste saisissant avec la pierre claire de la cathédrale. Le dôme de Brunelleschi a eu une influence profonde sur l'architecture, non seulement à Florence mais aussi dans toute l'Italie et au-delà. La construction de ce prodige d'ingénierie a marqué le début d'une nouvelle ère dans la conception architecturale et a contribué à définir la Renaissance. Le dôme a démontré les possibilités de combiner les idées classiques avec les nouvelles innovations architecturales, et il a fourni un modèle pour les générations futures d'architectes. En fait, le dôme de Brunelleschi inspira la conception d'autres dômes monumentaux à travers l'Europe. L'exemple le plus notable de cela est la basilique Saint-Pierre à Rome, qui fut construite plusieurs siècles plus tard. Michel-Ange, qui fut profondément influencé par le travail de Brunelleschi, utilisa une conception similaire lorsqu'il construisit le dôme de la basilique Saint-Pierre. L'influence du dôme de Brunelleschi peut également être vue dans les dômes des églises, des bâtiments gouvernementaux et d'autres structures monumentales à travers l'Europe, alors que les architectes cherchaient à reproduire la beauté et la grandeur de la création de Brunelleschi. Au-delà de son influence sur d'autres œuvres architecturales, le dôme de Brunelleschi a également révolutionné la manière dont les architectes et les ingénieurs pensaient à la relation entre la forme et la fonction. Son travail a montré que la beauté architecturale pouvait être atteinte sans sacrifier l'intégrité structurelle et que l'innovation en ingénierie pouvait être aussi belle et impressionnante que l'expression artistique. Le génie de Brunelleschi n'a pas seulement résolu les problèmes techniques de la construction du dôme, mais il a aussi créé une œuvre d'architecture qui inspirera les générations futures d'architectes, d'ingénieurs et d'artistes. Le dôme de Brunelleschi reste l'un des plus grands exploits architecturaux de tous les temps, non seulement pour son ingénierie et sa conception, mais aussi pour la manière dont il a façonné le cours de l'architecture de la Renaissance. En vous tenant sous ce dôme aujourd'hui, il est impossible de ne pas ressentir un sentiment de crainte et d'émerveillement face à cet exploit, en sachant qu'il a été construit grâce à l'ingéniosité et à la vision d'un homme qui a changé le cours de l'histoire de l'architecture. Le dôme de Santa Maria del Fiore est un symbole non seulement de la grandeur de Florence, mais aussi des possibilités infinies de la créativité et de l'ingéniosité humaine. Grimper dans le dôme de Brunelleschi est une expérience inoubliable qui offre non seulement un défi physique, mais aussi un voyage à travers l'histoire. L'ascension commence à la base de la cathédrale de Florence, où les visiteurs sont conduits vers les étroites et sinueux escaliers qui s'enroulent vers le dôme. Ces escaliers sont raides et souvent exigus, rendant l'ascension nécessitant patience et détermination. À mesure que vous montez, l'anticipation grandit et vous commencez à ressentir le poids de l'exploit que vous êtes sur le point de vivre. Les escaliers sont étroits, serpentant à travers les murs du dôme, et parfois, ils s'ouvrent sur de petits passages qui offrent des aperçus de la coque intérieure du dôme. À mesure que vous montez, les murs se rétrécissent progressivement et l'ascension devient plus intime, vous donnant un sentiment d'être à l'intérieur d'un chef-d'œuvre architectural. La coque intérieure du dôme est un prodige en soi. En montant, vous passerez à proximité de la maçonnerie en briques en chevron que Brunelleschi a utilisée pour soutenir le dôme, vous offrant une occasion unique d'observer de près l'artisanat. La maçonnerie forme des motifs complexes, et à mesure que vous montez, vous pouvez voir comment la conception à double coque fonctionne pour soutenir la structure massive du dôme. L'ascension elle-même devient un acte de connexion à l'histoire du dôme, vous permettant de vivre de première main l'incroyable ingénierie qui a contribué à sa création. Finalement, après avoir grimpé plus de 400 marches, vous atteindrez le sommet du dôme. C'est là, en vous tenant au sommet, que la véritable récompense se révèle. La vue panoramique a coupé le souffle sur Florence. Depuis ce point de vue, vous pouvez voir la ville entière s'étendre devant vous, avec ses toits emblématiques et le cours sinueux du fleuve Arno traversant le cœur de la ville. À l'ouest, les 12 collines toscanes s'élèvent, leurs pentes verdoyantes roulant vers l'horizon. La vue depuis le sommet est tout simplement spectaculaire, offrant une occasion rare de voir Florence dans son intégralité, tout en ressentant le sentiment d'accomplissement qui accompagne l'atteinte du sommet de l'un des plus grands exploits architecturaux du monde. De ce point de vue élevé, il est facile d'apprécier le design ingénieux du dôme de Brunelleschi. Non seulement il a résolu un problème d'ingénierie qui avait déconcerté des générations d'architectes, mais il se dresse également comme un symbole des ambitions et des réalisations artistiques de la ville. En regardant Florence, on se rappelle l'importance historique de la cathédrale de Florence et la manière dont elle a façonné l'identité de la ville au fil des siècles. En vous tenant au sommet du dôme de Brunelleschi, vous ne pouvez pas vous empêcher de réfléchir à l'incroyable exploit d'ingénierie qui a permis de construire une telle structure sans les supports traditionnels en bois qui avaient été utilisés pendant des siècles. L'utilisation innovante de l'espace par Brunelleschi, sa maçonnerie en briques en chevron et son génie pour créer une structure autoportante se révèlent à mesure que vous regardez la ville en contrebas. L'ascension, bien que physiquement exigeante, devient une expérience qui vous relie profondément à l'histoire de Florence. La vue, combinée à la connaissance de la construction du dôme, crée un sentiment de crainte et de révérence tant pour le génie de l'ingénierie derrière la structure que pour la beauté intemporelle de Florence. La ville en dessous n'est pas seulement un ensemble de bâtiments et de rues, mais un témoignage vivant des incroyables réalisations artistiques et architecturales de la Renaissance. Le dôme de Santa Maria del Fiore reste non seulement un prodige d'ingénierie, mais aussi un symbole durable de l'héritage culturel de Florence. La Piazza del Duomo n'est pas seulement un centre d'architecture monumentale, mais aussi une place vivante et dynamique qui reflète le cœur battant de Florence. Entouré de la majestueuse cathédrale de Florence, du campanile de Giotto et du baptistère de San Giovanni, la place est un lieu où l'histoire, la culture et la vie quotidienne s'entrelacent harmonieusement. En vous tenant ici, vous pouvez ressentir la présence de siècles d'histoire, tout en vivant en même temps l'énergie du présent. Au centre de cet environnement historique riche se trouve le baptistère de San Giovanni, l'un des plus anciens bâtiments de Florence. Datant du XIe siècle, le baptistère a été construit à l'origine pour être le lieu où les citoyens florentins étaient baptisés, reflétant la nature profondément religieuse de la ville à l'époque médiévale. La forme octogonale du baptistère est symbole de l'éternité, et sa structure a subi plusieurs rénovations au fil des siècles. Cependant, ce sont les portes du paradis qui rendent ce baptistère mondialement célèbre. Les portes du paradis, créées par le maître sculpteur Lorenzo Ghiberti, sont peut-être la caractéristique la plus célébrée du baptistère. Ces magnifiques portes en bronze représentent des scènes de l'Ancien Testament et sont un exemple parfait des idéaux de la Renaissance, alliant humanisme, habileté et article. Les 10 panneaux sur les portes sont sculptés avec des reliefs complexes, racontant des histoires bibliques d'une manière jamais vue auparavant. La perspective et la profondeur que Ghiberti a atteinte dans ces scènes étaient révolutionnaires et elles témoignent des avancées techniques de l'époque. Chaque scène n'est pas seulement un récit religieux, mais aussi un chef-d'œuvre d'expression artistique. Les portes du paradis sont vénérées pour leur beauté et leur artisanat depuis leur achèvement en 1452, et elles demeurent l'une des œuvres les plus emblématiques de l'art de la Renaissance. En vous tenant dans la Piazza del Duomo, il est difficile de ne pas remarquer le contraste entre la solennité de ces monuments anciens et l'atmosphère animée de la place. La piazza est constamment animée, avec des vendeurs locaux qui proposent des souvenirs, des artistes qui peignent sur les trottoirs, et des glaciers offrant une douce escapade du soleil florentin. Des artistes de rue divertissent souvent les visiteurs avec de la musique, des jongleries ou des statues vivantes, ajoutant à l'énergie vivante de l'endroit. Des touristes du monde entier se rassemblent ici pour admirer l'architecture, tandis que les habitants se faufilent dans la foule, vaquant à leurs occupations quotidiennes. Ce mélange de passé et de présent donne à la place un caractère intemporel, les bâtiments monumentaux se dressant fièrement en arrière-plan, tandis que la vie dans la piazza continue sans interruption. La Piazza del Duomo est bien plus qu'un simple lieu à visiter, c'est un espace où le passé et le présent de Florence coexistent. La place raconte l'histoire de la ville à travers son architecture, mais elle représente également la vie moderne et vibrante qui prospère dans la ville aujourd'hui. Touristes et habitants se retrouvent ici, dans ce lieu central de rassemblement, où les structures monumentales servent de toile de fond à leurs interactions, qu'ils admirent la façade de la cathédrale ou qu'ils se contentent de profiter d'une promenade. En vous tenant ici, à contempler la beauté des bâtiments qui vous entourent, il est impossible de ne pas se sentir lié à la fois à la signification historique de la place et à son rôle dans la vie quotidienne de ceux qui y vivent. La Piazza del Duomo reste un lieu où le sacré et le profane se rencontrent, où l'histoire profonde de Florence coexiste avec son présent animé et dynamique. À mesure que nous arrivons à la fin de notre parcours, prenons un moment pour réfléchir sur le campanile de Giotto et la cathédrale de Florence. Ces deux monuments emblématiques ne sont pas seulement des œuvres d'art et d'architecture à couper le souffle, mais ils portent également une signification profonde dans l'histoire riche de Florence. Le campanile de Giotto, avec son design gothique élégant et ses reliefs en marbre complexe, raconte l'histoire de la fierté de Florence pour ses réalisations artistiques et sa dévotion à la foi. La tour se dresse comme un témoignage de la créativité et de l'innovation de la Renaissance, et en montant ses marches, vous atteignez physiquement et métaphoriquement les hauteurs que cette grande ville a atteintes tant en art qu'en ingénierie. De même, la cathédrale de Florence est un symbole de l'importance de la ville pendant la Renaissance et de sa profonde vie religieuse et civique. Du majestueux dôme de Brunelleschi à la façade en marbre polychrome, chaque partie de la cathédrale raconte une histoire d'ambition, de foi et de génie artistique. En explorant son extérieur et son intérieur, vous avez marché sur les traces de ceux qui ont contribué à façonner l'âge d'or de Florence, et vous avez vécu de première main pourquoi cette cathédrale reste l'un des monuments religieux et architecturaux les plus significatifs du monde. Mais Florence est une ville qui a bien plus à offrir au-delà de la Piazza del Duomo. Si vous avez été captivé par l'histoire et l'art ici, je vous encourage à poursuivre votre voyage à travers cette belle ville. À quelques pas de là, vous trouverez la Galerie des Offices, abritant certaines des œuvres d'art les plus incroyables jamais créées, dont des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, Michel-Ange et Botticelli. C'est un musée qui vous plongera au cœur de la Renaissance, offrant davantage d'aperçus sur la créativité qui a transformé cette ville. Un autre incontournable est le Ponte Vecchio, le célèbre pont médiéval de Florence qui traverse le fleuve Arno. Ces charmantes boutiques, intégrées directement dans le pont, offrent un endroit parfait pour se promener et peut-être trouver un souvenir unique de votre séjour à Florence. Ne manquez pas la vue sur le fleuve en traversant et prenez un moment pour apprécier l'histoire de ce pont qui a survécu à des siècles de guerre et de changements. Pour une escapade paisible, rendez-vous au jardin de Boboli, un vaste espace vert et serein derrière le palais Pitti. C'est un endroit magnifique pour se détendre, offrant des vues imprenables sur Florence, des statues, des fontaines et des sentiers qui serpentent à travers des jardins luxuriants. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer après avoir exploré les rues animées de la ville. Merci de m'avoir accompagné lors de cette visite audio au cœur de Florence. J'espère que vous avez apprécié plonger dans l'art, l'histoire et l'architecture de cette ville intemporelle. Florence est un lieu où chaque coin offre quelque chose de nouveau à découvrir, et chaque bâtiment raconte l'histoire de la créativité et de la vision qui ont façonné non seulement cette ville, mais aussi le cours de l'histoire. Que vous soyez au début de votre aventure ou que vous soyez sur le point d'explorer davantage la ville, que votre temps ici soit rempli d'émerveillement et de fascination. En poursuivant votre voyage, imprégnez-vous des paysages, des sons et des sensations de Florence, et souvenez-vous que la beauté et la magie de cette ville se cachent toujours au coin de la rue. À la prochaine, profitez du reste de vos voyages, et merci encore de m'avoir accompagné lors de cette visite à travers l'une des villes les plus captivantes du monde. Bon voyage et profitez de Florence !